supporter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pouruneconstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu dimanche prochain, 10 avril, et opposera 12 candidats. Les deux qui auront rassemblé le plus de voix seront qualifiés pour le second tour. C'est un scrutin uninominal, majoritaire, à deux tours. Programmé, lui, pour le deuxième tour, dimanche 24 avril. Je rappelle que les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h en France et à Moissac.
Ils vont tous les repeindre alors, ils seront tout verts.
Tout verts, on verra bien. J'espère franchement que nous serons nombreux à voter et avoir lu les programmes. Ne boudons pas les urnes, courage! Il est temps de reprendre notre place dans cette société. Le mode de scrutin est défini par l'article 7 de la Constitution. Le scrutin est uninominal majoritaire à deux tours, comme je vous le disais. Et pour être lu au premier tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n'est obtenue par aucun candidat à l'issue du premier tour, ce qui a été le cas dans toutes les élections présidentielles jusqu'à ce jour, il y a ballotage et il est procédé à un second tour. Le scrutin présidentiel ne présente pas de seuil électoral pour accéder au second tour. La règle du quinquennat s'est appliquée à partir de l'élection présidentielle de 2002. L'exercice de la fonction présidentielle est limité à deux mandats consécutifs, révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Lors de ma chronique précédente, je vous avais lu les articles de loi de notre Constitution se référant à l'élection du président de la République. Son rôle, enfin ses rôles dans nos institutions, et même que dans ma conclusion, était que nous nous apercevions de cette hyper-présidence, mais qui mène le pays dans une drôle de démocrature. Mot qui est néanmoins un néologisme impliquant démocratie et dictature. Un peu trop à la mode d'ailleurs en ce moment. Ou serait-ce une dérive monarchique du pouvoir exécutif ? Notre Constitution n'est plus en phase avec la réalité des attentes citoyennes. Il y a comme un désintérêt de nos concitoyens. Et pourtant, il y a du monde à certains meetings de certains candidats. Moi, j'étais dimanche à Toulouse à celui de Mélenchon, impressionné par ce monde et par le nombre de jeunes à huer comme le peuple dans l'arène grecque. C'était plutôt encourageant, voire stimulant, et je me suis dit « Oui, il est urgent de changer d'air et de croire à des mesures salvatrices dans les années à venir. Si la démocratie repose sur l'idée que la majorité exprime l'intérêt général, le peuple français ne doit pas choisir la démission comme réponse. » D'un seul coup, je me suis demandé pourquoi il ne me restait pas plus de souvenirs de la République de Platon et d'Aristote, ces deux philosophes de la Grèce antique. Platon parce qu'il parle de vertu, de morale pour résoudre le problème politique. Je n'ai plus trop de souvenirs de la fameuse théorie du philosophe roi et de ceux qui peuvent diriger la cité. Tant qu'à Aristote, tant qu'à lui, il se prononce en faveur d'une démocratie et de l'égalité des droits politiques. Et j'ai été surprise de penser à eux pendant ce plaidoyer et pendant les propositions de M. Mélenchon. Il aurait pu me faire aussi penser à Socrate, qui était devenu célèbre quelques siècles en arrière pour avoir encouragé les gens à tout remettre en question. J'aurais pu vous parler de ce tribun devant la plèbe avec son éloquence puissante, malgré le froid. Enfin, je sentais le peuple. Je voyais le peuple dans toute son expression. Figurez-vous, ça m'a fait du bien. Surtout place du Capitole. Les Capitouls ont-ils parlé ainsi? Et sous la Révolution, quelle symbolique, chers auditeurs. Mais là, je me renseignerai davantage.
la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Chantez compagnons dans la nuit, la liberté vous écoute. Motivé, motivé.
L'extrême droite a été exacerbée durant cette campagne. Et les grands médias s'en donnent à cœur joie et misent sur les candidats qui souhaitent réformer la politique migratoire, la menace d'une immigration massive en France, et même on voit apparaître des propositions inadmissibles du style supprimer le droit au regroupement familial, un droit consacré par la Convention européenne des droits de l'homme que je vous avais lu, et par le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative en France. Et même la loi sur les prénoms, ridicule. Pour les futures naissances, vous rendez compte? En faisant en sorte que le premier prénom soit issu des calendriers français, régionaux, ou des personnages connus de l'histoire antique et biblique. Non mais, je rêve. Où allons-nous, monsieur Zemmour? L'Europe a été construite pour bannir ces spectres du racisme et de l'antisémitisme. Moi, je vous le dis, chers citoyens, ne nous laissons pas influencer, ni berner par de tels propos, qui ne sont pas dignes d'une campagne présidentielle honorable, qui a suscité finalement peu d'intérêt au début. Et maintenant, il me semble, un peu tardivement, que l'on commence à s'interroger. Car nous y sommes. Bien sûr, personne ne peut mesurer avec certitude quelle sera la participation de dimanche. Et c'est même difficile de prédire quoi que ce soit. Ne laissons pas parler les sondages à notre place. Bien sûr, j'aurais aimé aussi aller plus loin dans notre Constitution avant ces élections. J'espérais aussi recevoir les jeunes de la Marche pour leur climat, du Tarn-et-Garonne, mais voilà, ce sont des étudiants et il me faudra les recevoir avec leur disponibilité. Je ne leur en veux pas du tout. Mais je vais vous relire le préambule de notre Constitution et aborder le point que nous devions aborder, qui est celui de l'environnement. Point litigieux, peu ou pas abordée par certains candidats qui viennent défendre le nucléaire alors que l'on connaît les conséquences à long terme de cette énergie. Ah, mais en France, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas eu d'accident grave sur les centrales nucléaires. Alors, il est dit dans un rapport de l'IRNS, donc une structure qui suit toute l'énergie nucléaire, que toutes les dispositions techniques sont prises pour éviter un accident dans une centrale. La façon dont fonctionnent nos centrales françaises interdit l'emballement de la réaction de fission et de l'explosion du réacteur nucléaire. J'espère que je vous aurai bien rassuré, chers auditeurs. Donc, en préambule, il est écrit « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. » Alors, que dit cette Charte de l'environnement dans ses 10 articles? Ils sont assez courts, alors je vais me permettre de vous les lire. Et comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. Article 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi. Article 5. La réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement. Les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable à cet effet. Elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Article 8. L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente charte. Article 9. La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement. Et enfin, le dernier article, article 10. La présente charte inspire l'action européenne et internationale de la France. On dirait bien que cette charte de l'environnement est un projet de société, carrément, et à elle toute seule. En termes d'écologie, de respect environnemental, d'égalité des droits et de justice sociale. Quelle belle intention, cette charte de l'environnement! Nous aurions pu demander au cabinet McKinsey de nous concocter un bon plan pour la France. Tout au long du quinquennat, l'interdiction du glyphosate a été repoussée pour finalement ne jamais advenir. Le 5 février 2021, la ministre de la Transition écologique et le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation ont fixé par arrêté les modalités d'utilisation provisoire de semences traitées avec des pesticides contenant les substances actives, imidacloprid ou thiamethoxam, les fameux néonicotinoïdes. Eh bien, on est toujours au même point. Plusieurs associations environnementales et représentants des apiculteurs et agriculteurs ont demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre cet arrêté. Eh bien non. L'autorisation provisoire de ces pesticides est prévue par la loi, qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu à l'insu de notre plein gré, chers concitoyens. Vous comprenez bien que notre République n'est plus tout à fait bien démocratique. Le juge des référés du Conseil d'État relève que l'utilisation de ces substances, en principe interdites, a été autorisée temporairement par la loi du 14 décembre 2020. Nous avons des textes et ils ne sont pas appliqués. Ou ils sont détournés. Au nom de quoi? Au nom du profit? Pour tous ces gros Syngenta, Monsanto, Bayer? Pour notre avenir à tous, voilà les principales conclusions du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, qui publiait ce lundi 4 avril son troisième et dernier volet de son sixième rapport d'évaluation sur les changements à opérer. Ils sont majeurs et passent par une réduction importante des énergies fossiles. L'accroissement des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des modifications des modes de vie. Une hausse substantielle des financements est demandée et l'aide de l'innovation technologique redemandée. Alors, chers politiques, nous les avons, les rapports. Nous les avons, les informations et les modalités. Et même les incidences pour notre environnement. Dans cette charte, tout est dit pour sauver notre futur. Mais vous, qui les avez votés, qu'en faites-vous? Alors oui, nous allons agir. Oui, le citoyen va se prendre en main. Parce que la République, c'est nous. C'est le peuple. Votons oui à l'élection d'une assemblée constituante. Vous pouvez interagir alors sur notre site pour une constituante ou sur cette boîte mail qui va bientôt changer pour une constituante 82@free.fr. J'espère que la semaine prochaine nous aurons donc eu le premier tour. J'espère que la semaine prochaine nous pourrons aborder aussi entre autres les problèmes d'environnement avec les jeunes de la marche pour le climat. Dans tous les cas, dimanche, je vous invite à voter. Allons voter. Puis, sachez que samedi 9 avril, à la veille de ces élections présidentielles, il y aura la grande marche pour le futur. Alors, ce n'est pas que la marche pour le climat, c'est aussi pour interpeller tous nos politiques face à l'injustice sociale, face à tout ce qui n'est pas mis en place pour l'environnement, mais pas que, pour les industries, pour les villes, pour tous les citoyens qui sont en quête d'une amélioration de leur vie et de leur quotidien. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.